Bonsoir, nous sommes vendredi 20 juillet 2012. Avec des confrères journalistes, nous analysons les sujets qui ont fait l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes ont été retenus pour vous, à savoir un point sur la situation sécuritaire au Nord Kivu. Et dans notre deuxième thème, il sera question de l'élection du porte-parole de l'opposition. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat J.R. Mokolo, journaliste et directeur de programme à Canal Congo Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir J.R.
Oui, bonsoir Kelly, écoutez.
Harold Bellarmin Badibanga, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGI, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Harold.
Bonsoir Kelly.
Et Jean Dombassi, journaliste à la radio communautaire de Mwanda, une radio qui émet depuis la cité de Mwanda au Bas-Congo. Bonsoir Jean Dombassi.
Oui, bonsoir.
Merci de nous suivre dans toutes les provinces de la RDC sur la fréquence FM. Mais pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'entrer dans les vifs de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé et traité les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Samuel Kachak.
Bonsoir. Situation sécuritaire à l'est de la RDC. Le Phare rapporte que Joseph Kabila et Paul Kagame se sont prononcés sur la mise en place immédiate d'une force internationale neutre appelée à éradiquer le M23 ainsi que toutes les autres forces négatives dans la région des Grands Lacs. Le Phare, qui se montre plus tranchant sur cette question, estime que cette force neutre en RDC est un gros piège. Le potentiel reste tout de même prudent sur les chances de réussite de cette force sur le terrain et se demande si le recours à une force commune est une victoire diplomatique ou un échec militaire. Terminons cette revue de presse avec La Prospérité qui titre « Élection du porte-parole de l'opposition, échec ou coup de force au palais du peuple ». Mercredi, les députés de l'opposition étaient partagés sur cette question. Certains ont affirmé leur volonté de désigner cette personnalité avant la fin de la session extraordinaire. D'autres, par contre, ont estimé que la question de la désignation du porte-parole n'est pas urgente. La Référence Plus voit dans ce geste une tentative de tricherie autour de cette élection du porte-parole de l'opposition. Choix du porte-parole, l'opposition devant un casse-tête, titre Le Palmarès. Le non-aboutissement du processus de désignation du porte-parole semble arranger tous les opposants qui auront réussi le triste exploit de se neutraliser. Comme autre sujet ayant fait l'actualité cette semaine, nous avons le syndicat des diplomates de la RDC qui a plaidé pour l'obtention d'un statut spécial des diplomates à l'instar des magistrats et médecins. Cette structure se dit préoccupée du mauvais traitement dont sont victimes les diplomates congolais. Elle dénonce l'affectation en poste diplomatique des personnes n'ayant pas qualité.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Harold Bellarmin Badibanga. Parmi les autres sujets, on l'a suivi dans la revue de presse, il y a cette déclaration des syndicats des diplomates de la RDC qui se plaint du mauvais traitement dont sont victimes les diplomates congolais. Un mot par rapport à cette information?
Devant les faits, on s'incline. Les faits sont tels que lorsque nous allons en dehors de la République démocratique du Congo, Kelly, il faut être aveugle pour ne pas voir. Les conditions dans lesquelles vivent nos ambassadeurs, les fonctionnaires internationaux accrédités dans d'autres pays sont tellement déplorables que l'on se demande si réellement ils émanent d'un pays comme la République démocratique du Congo. En 2007, j'étais à notre ambassade en Belgique, c'était déplorable. Même la résidence de l'ambassadeur ne donnait pas lieu à croire que c'est l'ambassade d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Et donc, si le plaidoyer de ces fonctionnaires internationaux va dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de travail, étant donné que c'est la condition sine qua non pour la respectabilité de la République à l'étranger, on est bien d'accord. Mais si le plaidoyer va dans le sens de la création d'un corps spécial comme celui des avocats, des médecins, je ne vois pas en quoi serait l'opportunité de cette démarche, étant donné qu'in fine, ce dont nous avons besoin, c'est l'amélioration de leurs conditions de travail.
Merci Harold Bellarmin. J.R. Mokolo, justement sur cette information, les syndicats demandent un statut spécial à l'instar des magistrats et médecins. Est-ce que tu penses que c'est inopportun, comme vient de le dire Harold Bellarmin?
Bon, comme le médecin, à travers un statut spécial, a pratiquement des avantages spéciaux, bon, on peut leur accorder cela aussi, mais ce qui est important, c'est de voir en tout cas ces diplomates évoluer dans de très, très bonnes conditions, qu'on n'ait pas diplomates clochards en Europe qui font pas vraiment en tout cas la fierté du pays. Je voudrais aussi parler d'une autre misère que vivent en tout cas nos diplomates, c'est pratiquement la mauvaise relation entre nos missions diplomatiques et les congrès de la diaspora. Congrès de la diaspora qui pratiquement vivent à couteau tiré avec nos diplomates, parce que vous savez, avec la diaspora qui n'est pas très bien en bonne relation avec les institutions de la place, bon, et même nos représentations diplomatiques aussi ont des difficultés, parce que j'ai suivi par exemple des témoignages en Afrique du Sud. On dit que l'ambassadeur est obligé, par exemple, vraiment de s'enfermer pratiquement les Congolais, même quand ils doivent aller là-bas, on ne leur ouvre pas facilement la porte parce qu'on craint, par exemple, qu'ils viennent soit manifester, ils viennent casser. Donc il y a deux problèmes, difficultés sur le plan social, sur les conditions de travail, aussi une mauvaise relation avec des Congolais qui sont à l'étranger. Pourtant, ce sont ces missions-là qui sont censées représenter les Congolais.
Merci, J.R. Mokolo. Jean Dombasi, vous intervenez depuis la cité de Mwanda, dans la province du Bas-Congo. C'est quoi l'actualité aujourd'hui dans le Bas-Congo et plus spécialement à Mwanda?
À Mwanda, l'actualité se focalise autour de l'électricité. L'électricité est cette denrée rare qui est très sollicitée ici à Mwanda. Vous savez que Mwanda est très vaste pour le moment et puis... on est en train de construire la station qui doit abriter la fibre optique. Et puis, il y a encore grande hôtel qui doit ouvrir ici. Alors, pour la fibre optique, il faut démarrer ça aujourd'hui. Il faut 600 kilowatts. Et puis, pour l'hôtel qui va encore ouvrir, il faut 400 kilowatts. Alors, pour ces deux histoires, il nous faut 1 méga. Or, la FNEL Mwanda a seulement 2 mégas. Et 1 méga à partir de l'EDIA Perenco. Et l'autre méga à la FNEL. Alors, le besoin en électricité pour la cité côtière de Mwanda, c'est évalué à 12 mégas. C'est pour vous dire qu'à Mwanda, nous sommes dans le noir. Et lorsque vous arrivez ici la nuit, c'est comparable à la forêt du Mayom. Donc, la population souffre et ne sait pas à quel fait c'est voué. Voilà l'actualité à Mwanda.
Merci Jean Dombasi. Premier terme de ce soir, situation sécuritaire au Nord Kivu. Le gouvernement annonce la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'application rapide des dernières décisions prises à Addis Abeba en faveur de la paix dans l'Est de la RDC. Il s'agit d'établir immédiatement une force internationale neutre afin d'éradiquer les M23, les FDLR et les autres forces négatives opérant dans cette partie du pays et d'assurer le contrôle et la sécurité des zones frontalières. Annonce faite hier jeudi en conférence de presse conjointe par le ministre des Affaires étrangères et son collègue des médias. C'était au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Lambert Mende et Raymond Tshibanda ont également fait la restitution de la déclaration d'Addis Abeba. Reportage Jeff Ngoy.
Les spécialistes militaires des Nations Unies ou la MONUSCO et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine détermineront la taille et la composition de la force internationale neutre. De par son analyse du problème, le ministre des Affaires étrangères affirme que la RDC y apportera sa contribution pour s'assurer que la force ainsi mise en place répondra à la mobilisation rapide mais aussi aux garanties d'efficacité en termes des résultats attendus. Qu'est-ce qui reste encore à faire pour mettre en marche les décisions d'Addis Abeba, Remo Tshibanda?
Maintenant, nous allons conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine approcher les Nations Unies pour la partition qui sont censées jouer dans cette grande œuvre musicale que nous voulons mettre en place. Quel est le feedback que nous avons déjà reçu du Conseil de sécurité sur l'implication éventuelle de la MONUSCO? Il faut encore le temps de la saisine du Conseil de sécurité. Nous allons les saisir, le courrier est prêt, de manière formelle, avant la fin de cette journée. Le secrétariat exécutif, la présidente de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations Unies, par écrit, des décisions, pas par nous, des décisions ils ont déjà obtenues, mais notre volonté de voir se mettre rapidement en place le mécanisme pour l'application.
Nous n'excluons pas que cette force soit une sous-composante de la MONUSCO, répond le ministre à une question. Il note le rôle positif joué jusqu'ici par la MONUSCO. Mais son mandat n'étant pas coercitif, le débat devra maintenant être engagé à New York pour élargir la mission.
Merci Jeff Ngoy, J.R. Mokolo. Je rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef à Canal Congo Télévision. C'est une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Le gouvernement congolais annonce la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'application rapide des dernières décisions prises à Addis Abeba en faveur de la paix dans l'est de la RDC. Il s'agit entre autres de mettre en place une force neutre pour assurer la sécurité des frontières. Comment vous accueillez ou vous analysez cette annonce du gouvernement congolais?
Bon, dans un premier temps, je dirais que c'est une initiative des pays membres de la communauté internationale des régions des Grands Lacs, CIRGL. Bon, j'aurais souhaité d'abord qu'au niveau de ces pays-là, ils puissent quand même se retrouver et avoir quand même un entendement commun sur ce qu'ils veulent faire et à leur niveau, qu'est-ce qu'ils peuvent mobiliser en termes d'hommes, en termes de logistique, tout ça, avant de pouvoir voir le Conseil de sécurité, parce que le Conseil de sécurité est déjà présent ici à travers la MONUSCO. Ce qui était en fait logique, ce serait qu'au niveau du Conseil de sécurité, on plaide par exemple pour qu'on arrive jusqu'au niveau du chapitre 7, l'imposition de la paix par la MONUSCO. Parce que le mandat actuel de la MONUSCO ne nous permet pas en tout cas d'imposer la paix. C'est juste une mission d'accompagnement des FARDC dans la sécurisation des populations congolaises. Bon, je me dis, on saisit le Conseil de sécurité, l'Union africaine, la communauté CICRGL, qui a pris l'initiative, n'a même pas encore montré ce qu'elle compte en tout cas faire en termes concrets. On voit le Conseil de sécurité, est-ce que c'est pas surcharger le Conseil de sécurité pour qu'au-delà de la MONUSCO, on déploie encore une autre force à la charge du Conseil de sécurité pour pouvoir faire ce travail de sécurisation. L'idée, en tout cas, est une bonne initiative, mais maintenant, c'est dans la mise en œuvre de cette initiative que ça posera en tout cas des problèmes.
Est-ce que la mise en place de cette force pourrait être une solution afin de mettre fin à la sécurité qui sévit dans cette partie du pays?
Bon, sur papier, oui. Mais ce qui reste maintenant, c'est sur terrain parce que, comme je l'ai dit, la MONUSCO n'ayant pas la mission d'imposer la paix, si on peut avoir une force spéciale du genre d'Artemis qui était déployée par l'armée française ici sur place, avec un mandat spécial, des forces combattantes qui sont bien formées, motivées, qui vont uniquement pour s'attaquer. C'est pas pour attendre à ce que les groupes armés, les forces négatives attaquent et ils vont réagir, non. Des forces qui vont aller chercher les groupes armés là où ils se réfugient pour pouvoir en tout cas les anéantir et faire en sorte qu'enfin, depuis pratiquement 96-97, que l'Est de la RDC ne ressemble plus en tout cas à un ventre mou, mais que ça soit vraiment une zone sécurisée et que les populations civiles puissent quand même humer l'air de la paix parce que depuis 96 jusqu'à maintenant, vraiment c'est la guerre à l'Est du pays.
Mais il faudra aussi que ces éléments connaissent la région.
Tout à fait. À ce moment-là, il va falloir qu'ils puissent travailler de commun accord avec la MONUSCO et les FARDC même sur le plan de la conception quoi, des opérations dans les zones de déploiement. Parce que comme il y a déjà la MONUSCO qui a l'expérience de plusieurs années de présence dans cette région-là, le FARDC étant l'armée nationale qui est censée en tout cas connaître les milieux, ils pourront collaborer pour qu'ils n'aillent pas quand même sur un terrain inconnu, sinon ils vont avoir beaucoup de difficultés sur terre.
Merci J.R. Mokolo, Harold Badibanga. Est-ce opportun d'avoir cette force aujourd'hui?
Je dis non.
Non, pourquoi?
En tout cas non, parce que lorsque l'on prend une décision, il faut voir ce à quoi elle va nous faire aboutir comme résultat. En internationaliste, je sais que lorsqu'une recommandation internationale est prise, elle prend tout le temps pour être mise en application. Ça, c'est de un, de deux. Lorsque sur le plan des armements, on prend la décision de donner un bon nombre de ces militaires, des éléments de ces troupes à une organisation internationale comme celle-là, je ne crois pas, je le dis en âme et conscience, je ne crois pas qu'on peut donner les meilleurs de ces éléments. C'est le plus souvent, ce sont les médiocres qu'elle on met à la disposition d'une organisation internationale. Ça, c'est de deux. De trois, c'est une intervention qui ne sera du reste qu'éphémère. Si jamais elle arrive à être mise en application, elle sera éphémère, d'autant plus que je ne la vois pas perdurer pendant 2, 3, 4, 5 ans. Donc, non seulement du point de vue de la fonctionnalité, elle viendra tard, mais aussi elle sera éphémère. Alors moi, je pense que nous ne sommes pas, en tant que République démocratique du Congo, à une première résolution du genre. Faisons des conciliabules pour qu'à travers ces conciliabules, que le Rwanda arrive à mettre fin à l'agression l'expression de la République. Non. Donc, je me suis tout simplement rendu compte qu'une fois de plus, la République démocratique du Congo est dupée parce que c'est le Rwanda qui sort regaillardi dans ce qui vient d'être fait et qui prouve à la face du monde sa thèse selon laquelle l'affaire de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo...
Mais ce n'est pas ce que pense le gouvernement. Le gouvernement pense que la RDC sort favorite.
Mais c'est le point de vue du gouvernement qui n'est pas le mien. Je dis que une fois de plus, le Congolais est dupé par le Rwanda qui pense que la guerre à l'est de la RDC, c'est une affaire congolo-congolaise. Aujourd'hui, disons-nous, est-ce que les FDLR sont en problème avec le Rwanda? Je dis non. Bien au contraire, les FDLR sont en complicité avec le Rwanda. Posons-nous la question de savoir qu'adviendra-t-il le jour où cette force mise sur pied par le CIRGL va devoir quitter les frontières entre le Rwanda et la RDC. Donc, nous reviendrons à la situation qui est la nôtre. Pour le moment, donc, chasser le naturel, on revient au galop. À mon humble avis, journaliste congolais de mon état, bouche de sans bouche, parole de sans parole, la démarche qui aurait été entreprise par le CIRGL, le Rwanda et la RDC aurait été de demander à la communauté internationale et donc au Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer au Rwanda l'organisation d'une table ronde rwandaise entre toutes les forces politiques du Rwanda antagonistes pour que ce dialogue permette au FDLR qui du reste est la Libye majeure de Kagame pour agresser la RDC, que ce FDLR rentre au Rwanda et que tout se réorganise au Rwanda. Du moment que cette force est mise entre les frontières RDC-Rwanda et que les FDLR continuent à être au Rwanda, le problème n'est jamais résolu. Je crois que c'est de cette façon qu'il fallait voir les choses.
Mais il y a aussi des forces, des groupes armés congolais qui sèment la terreur dans cette partie du pays.
Alimenté par qui, madame? À l'heure actuelle, on parle de qui? De M23, ex-CNDP, ex-ex.
La semaine passée, on a parlé des Maïmaï Raïa Mutomboki.
Je suis convaincu qu'avec la force des forces armées de la République démocratique du Congo, ces Maïmaï Mutomboki et consorts ne sont capables de rien. Ils sont alimentés par le Rwanda pour l'extraction frauduleuse des minerais à l'est de la RDC. Il suffit que les FDLR et le Rwanda soient mis en dehors du territoire congolais pour que ceci arrive à la fin. Je suis convaincu que le dialogue est un agent pacificateur des conflits interhumains. On peut continuer à dialoguer. Mais en dialoguant, on ne doit pas perdre de repères, étant donné que le professeur Kambai Bouachi dit, quand on perd de repères, on se perd. Je me rends compte qu'on continue à se perdre, on passe à côté de la plaque, alors que le problème c'est le Rwanda, le problème c'est les FDLR. Une fois les FDLR en dehors de la RDC, le Rwanda n'aura pas de raison valable pour nous agresser.
Merci Harold Badibanga, Jean Dombassi, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio communautaire de Mwanda. C'est une radio qui émet depuis la cité de Mwanda, dans la province du Bas-Congo. Comment vous analysez la situation sécuritaire au Nord Kivu? Comment les habitants de Mwanda perçoivent cette situation?
Bon, au niveau de Mwanda ici, ça, d'abord c'est la désolation parce que aujourd'hui le Congo doit directement entamer la phase de la reconstruction au lieu que les autorités en place puissent se focaliser là-dessus et la guerre qu'on a relancée à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui on nous parle d'une force international là, qui doit venir sécuriser la frontière, tout ça. Nous pensons qu'ici, c'est une force de trop, une force inutile. Nous, on n'applaudit pas l'arrivée de cette force du côté de l'Est. C'est question d'abord qu'on puisse revoir le mandat de la MONUSCO. Hein, que si la MONUSCO peut imposer la paix de ce côté-là, je pense que ça serait une bonne chose. Et sur le plan interne, on a longtemps aussi parlé de la réforme de l'armée. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est question aussi de donner beaucoup de moyens aux éléments de l'armée nationale pour chercher quand même à mettre hors d'état de nuire toutes ces bandes de civiques qui sont là-bas. Et je sais qu'ils mènent une guerre économique, hein. Ils mènent une guerre économique. Juste le temps de distraire le gouvernement congolais, et prendre nos richesses, aller à déposer ça du côté de Rwanda, tout ça. Donc, l'armée régulière de la République démocratique du Congo une fois organisé, équipé et motivé, et peut s'en occuper, et nous pensons que dans un rien du temps, on peut imposer la paix à l'aide de la République démocratique du Congo. Nous, nous sommes vraiment attristés. Nous, nous sommes en paix ici à Mwanda. On est en paix dans les bas Congo. Et pourquoi seulement l'aide de la République démocratique du Congo? Donc, il faut militariser cette zone là-bas pour imposer la paix. C'est le cas de, c'est ce que l'Angola fait du côté de l'enclave angolaise de Cabinda. Hein? C'est une zone fortement militarisée. Moi, je ne vois pas qui peut aller déstabiliser l'enclave angolaise de Cabinda. C'est ce que aussi le gouvernement de la République démocratique du Congo doit faire à l'est de notre pays.
Merci Jean Dombassi, J.R. Mokolo. Entre-temps, la situation sécuritaire reste toujours précaire au Nord Kivu. Cette semaine, déjà en début de semaine, il y a les Mai Mai Raia Mutumbuki qui ont pris la ville de Walikale. Mais hier déjà, les FRDC ont réussi à récupérer cette ville. On a l'impression que c'est un peu un jeu de ping-pong.
On développe en tout cas avoir droit à ces jeux de ping-pong. En principe, la RDC, c'est un État souverain qui a de forces armées, des services de sécurité qui sont censés en tout cas assurer la sécurité et du territoire national et des personnes et de leurs biens. Mais comme nos forces armées en tout cas ont montré des limites, il y a la MONUSCO qui est là. Moi j'ai toujours vu la MONUSCO comme étant, en fait la RDC comme une personne fracturée qui a encore besoin des béquilles. Et que la RDC ne peut se débarrasser de la MONUSCO un jour, qui est le jour où vraiment sera sûr que nous pouvons marcher sur nos deux jambes. Apparemment, je me rends compte que jusqu'à maintenant, on n'est pas encore arrivé au moment où nous pouvons nous-mêmes prendre en charge notre sécurité. Parce qu'il n'est pas normal qu'une armée régulière, par exemple, puisse perdre comme ça du terrain en face des groupes armés qui sont peut-être pas organisés, qui sont pas suffisamment organisés. C'est qu'il se pose des sérieux problèmes au sein de notre armée. Il va falloir vraiment qu'on arrive à avoir des militaires bien formés, qui sont suffisamment motivés pour qu'ils soient très très combatifs et sur terrain qu'on n'ait pas de tels déboires. Bon, je vais essayer un peu de prendre en charge les préoccupations. C'est que Harold Badibanga dit, il est vraiment très pessimiste, je le remarque, par rapport au déploiement de cette force-là, internationale chargée de la sécurisation et de l'éradication des groupes armés à l'est du pays. Moi, je me dis, on ne peut pas échouer avant les combats. Harold dit pour lui, donc cette force-là est vouée d'avance à l'échec. Une force qu'on n'a pas encore mise en place. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à cette initiative-là. Donner la chance, voir que cette initiative se concrétise sur terrain en termes de déploiement de cette force-là et voir si elle va demain ou réussir ou pas. Et dire voilà, aussitôt cette force-là partie, bon, l'insécurité va revenir. Non, moi je
Est-ce
crois
qu'il
que...
n'a pas raison.
Bon, il peut avoir en partie raison, mais je sais que ça, Harold, c'est un journaliste, c'est pas un prophète des malheurs, je l'espère. Moi, je dis, il faut donner une chance à cette initiative et voir si elle va échouer. On va le constater sur terrain, mais pour le moment, elle n'est pas encore déployée.
Entre-temps, on aura déjà perdu du temps.
Bon, c'est pas, on aura perdu du temps, mais dans l'entretemps, c'est la MONUSCO est là, qui travaille conjointement avec les FARDC. L'autre volet de la réponse d'Harold, c'est le fameux dialogue inter-rwandais. Les Rwandais peuvent aujourd'hui, voilà, vous dites que je dois dialoguer avec mes compatriotes. Ils peuvent sélectionner, Kagame peut sélectionner des gens qui n'ont même aucune emprise sur les forces combattantes FDLR sur le terrain et organiser un semblant de dialogue et dire voilà, j'ai dialogué. C'est pas le fait, par exemple, que les Rwandais qui Kagame dialogue avec, c'est pas ses opposants, que ça va faire en sorte que ceux qui sont sur le terrain puissent, c'est pas déposer automatiquement les armes.
Parce la que solution, c'est quoi, selon vous?
La solution, c'est la MONUSCO avec un mandat soit renforcé ou il travaille en collaboration avec la force internationale neutre et le FARDC. On mène en tout cas des opérations de combat, de ratissage. On va libérer les territoires un à un entre les mains de ces groupes armés, de ces forces négatives, comme l'a dit les correspondants des Mwanda. Ce que l'Angola a fait, par exemple, on ne peut pas se référer à ce que l'Angola a fait. L'Angola avait, le gouvernement angolais avait pas le contrôle d'une bonne partie du territoire. Mais petit à petit, on a regagné du terrain et maintenant, le gouvernement angolais a pratiquement le contrôle sur une bonne partie du territoire. Moi, je pense pas qu'il faille vraiment tuer dans l'œuf ces projets, dire voilà, ça va échouer. On n'échoue pas. Avant d'avoir commencé, il faut d'abord tenter cette expérience et voir si ça va échouer ou pas.
Harold Belarbin, c'est quoi la solution aujourd'hui?
La solution, je persiste et je signe. Hein. Je crois que dans les propos de mon confrère Guillermo Kolo, il y a ces germes de l'obscurantisme européen qui a fait croire à l'Africain de manière générale et au Congolais qu'il ne peut pas être capable de faire quelque chose sans son père belge français. Je sens dans les propos de mon confrère Guillermo Kolo les germes de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Lui, avec moi, on combat contre la balkanisation, mais aujourd'hui, il est tombé dans ce piège parce qu'il se rend tout de suite compte que lorsque la CIRGL demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de voter rapidement une résolution pour que les forces arrivent aux frontières entre la RDC et le Rwanda. C'est une décision de la CIRGL.
La RDC fait partie des membres.
Oui, et pourquoi pour la mettre en exécution, il faut aller à l'ONU? C'est là que Guillermo Kolo doit se poser la question. Moi, je suis clair. Je dis que la résolution du genre n'est pas la première. Les précédentes ont-elles trouvé des solutions? Est-ce que la paix est revenue totalement à l'est de la RDC? Je dis non en majuscule et si j'écrivais, je soulignerais 25 000 fois en bleu, 50 000 fois en rouge. C'est pour dire que lorsqu'on on va avec une stratégie et qu'elle échoue, il faut changer de fusil d'épaule. Aujourd'hui, lorsqu'ils pensent que Kagame est capable de faire sa ruse pour faire un semblant de dialogue, je dis oui. Mais c'est que moi, je propose, c'est un dialogue inter-rwandais sous l'œil de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'on exigerait, on connaît bien les ténors des FDLR au Congo, on exigerait qu'ils soient là et qu'à l'issue de ce dialogue, que ces gens soient rapatriés dans leur pays. Je termine par où il a commencé. Il a dit qu'à l'étape actuelle, la RDC est comme une personne fracturée qui n'est pas capable de faire quelque chose. Je dis non. Tout ce qui se fait, la RDC est fragilisée par la volonté de l'impérialiste parce que je l'ai toujours dit. Avec seulement les civils congolais, plus de 65 millions de Congolais, sans armes, on peut marcher sur le Rwanda qui ne représente rien. Mais à tout moment que la RDC prend de l'ampleur, prend du dessus sur l'armée de Kagame, on sait qui vient soutenir cette armée pour faire face au FRDC. Ça c'est de un et de deux. Je finis par là, je dis qu'il est clair que sans la mobilisation totale, la prise de conscience, sans le renforcement des forces armées de la RDC, nous n'aurons même plus besoin de la MONUSCO. C'est que les FARDC peuvent faire quelque chose sans complicité de la communauté internationale qui veut faire la balkanisation de l'est de la RDC.
Merci Harold. Bellarmé Badibanga, Jean Dombassi, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui pourrait être la solution pour mettre fin finalement à cette situation dans la partie est de la RDC?
Oui, c'est ce que j'ai dit là. Donc, c'est une force de trop pour notre pays, la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne sait même pas comment ça sera constitué, quand est-ce qu'ils vont se déployer, pour combien de mois, pour combien d'années. Donc la solution pour moi, c'est la réforme de notre armée. Il faut réorganiser l'armée de la République démocratique du Congo, équiper cette armée, la motiver, et puis fortement militariser la zone, donc le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Il faut même nommer les gouverneurs militaires, ça serait une bonne chose. Donc on ne puisse pas perdre l'État parce que nous avons un grand défi à relever, c'est la reconstruction de notre pays, la République démocratique du Congo.
Merci Jean Dombassi. Deuxième thème de ce soir, toujours pas des porte-parole de l'opposition congolaise. Alors que la session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est achevée hier jeudi, l'opposition peine à élire son porte-parole. Ses élus dénoncent la mauvaise foi du pouvoir et la détermination des deux bureaux à ne pas convoquer la plénière. Aux dernières nouvelles, tous les groupes parlementaires n'attendaient plus que la convocation de la session par les deux chambres du Parlement pour procéder au vote du porte-parole. Le consensus ne s'est-on pas dégagé entre les différents groupes de l'opposition? Au Palais du Peuple, les vues restent très partagées entre les différentes parties. Les unes attendent en finir avec ces dossiers. Les autres n'y voient aucune nécessité, d'autant plus que rien n'urge. Le point avec vous, Jacques-Yves Molima.
L'opposition semble aller en ordre dispersé quant à ce qui concerne la désignation de son porte-parole. Les quatre groupes parlementaires ne parlent pas le même langage. D'un côté, les uns ont fait circuler un SMS demandant aux députés nationaux de se présenter ce mercredi au Palais du Peuple pour le vote du porte-parole. Cela d'autant plus qu'ils ne sont plus qu'à une journée de la clôture de la session extraordinaire. Mais pour les autres, rien n'urge. Jean-Claude Vouemba.
Nous mettons en garde les gens qui veulent jouer le jeu à travers une certaine précipitation, sans pour autant que nous puissions amender et adopter le règlement de l'ordre intérieur, commencer à parler de la désignation du porte-parole.
Pourtant, c'est plutôt les deux bureaux du Parlement qui tirent les choses à longueur, l'opposition étant déjà prête, estime Jean-Lucien Boussa.
Puisque les deux facilitateurs n'ont pas permis à l'opposition de se réunir, en conclusion, nous notons la mauvaise foi du pouvoir en place, mais aussi la détermination des deux bureaux à ne pas convoquer la plénière.
Notons que la Constitution prévoit la désignation du porte-parole de l'opposition un mois après l'investiture du gouvernement. Cependant, depuis l'investiture du gouvernement Matata, 2 mois et 10 jours se sont déjà écoulés sans qu'il y ait un porte-parole désigné et c'est déjà les vacances parlementaires.
Merci Jacques-Yves Molima, rôle de Belarmin Badibanga, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, une radio-télévision qui met depuis Kinshasa. Toujours pas de porte-parole de l'opposition, ça fait longtemps quand même qu'on attend ce porte-parole.
Ça ne m'étonne pas, connaissant l'opposition congolaise qui a toujours brillé par son incapacité à s'unir devant les événements qui concernent la République démocratique du Congo, le peuple congolais tout entier. Mais lorsqu'il s'agit des intérêts très partisans, on reconnaît l'opposition congolaise dans une sorte de fédération. Il faut aller outre ce qui nous est présenté de manière officielle, qu'il s'agit d'un problème d'intérêt. Il y a le camp, il y a deux camps qui se sont formés au sein de l'opposition congolaise maintenant. Le camp Kamere et le camp Badibanga. Ce qui se joue maintenant, c'est la volonté de robotiser le fonctionnement des institutions de la République. Si en 2000, le mandat passé 2006 à 2011, si le MLC a réclamé le poste de porte-parole de l'opposition au nom de Bemba, c'est pas parce que Bemba a été le challengeur de Kabila, mais c'était parce que le MLC, le parti politique de Jean-Pierre Bemba, était la première force politique de l'opposition. Nous devons construire la République démocratique du Congo sur base des institutions fortes et non sur base des personnes fortes. Et maintenant, nous sommes en droit de nous poser la question. Est-ce que l'UNC de Vital Kamerhe est premier parti politique de l'opposition pour qu'il réclame le poste de porte-parole de l'opposition? Non. Il faut tout simplement regarder le fait que au sein de l'opposition politique, il y a l'UDPS. Et c'est à l'issue, et c'est de cette formation politique que le porte-parole de l'opposition doit venir. Et les autres partis politiques qui viennent en ordre utile peuvent très facilement, en toute objectivité, réclamer le poste de porte-parole.
Mais on a suivi l'UDPS dire qu'il n'est pas concerné par cette histoire, cette élection du porte-parole de l'opposition.
Non, ça c'est une cuisine interne de l'UDPS. Nous, lorsque nous nous rendons à l'Assemblée nationale, nous voyons un groupe parlementaire, UDPS, et force acquise au changement. Ce sont ces députés qui siègent, qui représentent une force dans les institutions et au niveau de l'Assemblée nationale. Si le gouvernement Kelly est une émanation de l'Assemblée nationale, le porte-parole de l'opposition doit également être une émanation de l'Assemblée nationale, étant donné que ça doit être un individu qui siège avec le gouvernement pour bien scruter le fonctionnement de la République. Il est inconcevable que, par exemple, on dise, parce que Kamerhe était le challengeur de Kabila, comme Tshisekedi n'est pas là, c'est lui, en vertu de quoi quelqu'un qui ne siège même pas à l'Assemblée nationale peut prétendre à ce poste-là. Nous ne pouvons pas...
Mais est-ce que les textes disent qu'il faut nécessairement que le porte-parole soit issu du Parlement?
Voilà pourquoi j'ai suivi dans le reportage de Jacques-Yves Molima tout à l'heure, Jean-Claude Vemba réclamer le fait que l'autre camp veut mettre la charrue devant le bœuf. Il faut commencer par le règlement intérieur, le fonctionnement même. Et c'est à ce niveau-là que les préalables seront vidés. Je voudrais ici préciser que la RDC n'est pas en droit d'inventer la roue. J'ai vu, c'est en Angleterre en 1807 que cette pratique a commencé. Et tout dernièrement, en Afrique du Sud, il y a un leader qui pouvait être porte-parole de l'opposition, mais à qui on n'a pas donné ce poste, on a pris quelqu'un d'autre tout simplement parce que lui n'a pas été élu. Je préfère que, comme c'est un bon départ à ce niveau, qu'on priorise le priorisable. Le priorisable ici, ce sont les institutions, pour qu'en 2016, on arrive encore par la robotisation des institutions, que le parti maire au sein de l'opposition arrive à prendre ce poste. Et le cas échéant, comme au niveau de l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire UDP s'est allié et dirigé par Sami Badibanga. Je crois que c'est lui qui peut arriver à prendre ce poste-là et les choses sont claires.
J.R. Mokolo, journaliste et rédacteur en chef à Canal Congo Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Est-ce que ce porte-parole va-t-il vraiment défendre l'opposition quand on sait qu'il aura rang de ministre avec tous les privilèges qu'on connaît?
Bon, je sais que ces porte-paroles, en vertu de la loi et même du règlement de l'intérieur, a quand même un job description. Ce serait quelqu'un qui va travailler et essayer de contrôler le gouvernement. Je voudrais revenir un peu sur ce qu'Harold a dit. Je suis d'accord avec lui que l'opposition, en tout cas, est en train de se comporter comme les oppositions d'autres fois.
On intérêt a vu, personnel.
Voilà, à l'époque même du maréchal Mobutu, l'opposition ne s'est jamais mis d'accord sur quelque chose de concret. Ils ont monté Issoral, ils se sont embrouillés, ils se sont séparés. Mais l'explication, c'est laquelle? C'est que au sein de l'opposition, il n'y a pas d'autorité morale. On l'a vu, par exemple, pour les candidats présidents de la République. On a vu beaucoup de gens postuler parce qu'ils avaient le droit de le faire. À la majorité présidentielle, par exemple, nous avons une autorité morale qui dispose des postes à redistribuer, même des avantages sociaux qu'il peut aussi. Donc, quelqu'un, il peut vous dire, voilà, si vous n'obéissez pas, je vais vous couper les vivres. On obéit. Mais au sein de l'opposition, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, il n'y aura pas de consensus que les gens ne se leurrent pas. Les élections de 2006, en tout cas, fait que l'opposition s'est davantage divisée. Il y a cette cristallisation entre polarisation entre caméristes et tshisekedistes. Mais le problème de Sami Badibanga, c'est que Sami n'a pas beaucoup d'espérance sur le plan politique. Il ne pèse pas. Caméré, personnellement, sont de manière mon point de vue, parce que ce sont les deux qu'on oppose maintenant qui sont pratiquement à couteau tiré, qui se disputent ces postes-là. Caméré a la stature, Caméré a du charisme, il peut faire du poids par rapport à la majorité. Mais ce qu'il peut jouer contre Caméré, peut-être c'est sur le plan de la géopolitique, on se dit, voilà, mais quelqu'un de l'Est qui est premier ministre, les chefs de l'État de l'Est, tout ça. Mais sur le plan de sa personnalité, il a vraiment les profils pour ces postes-là. Mais la solution, je pense que sur cette question-là, c'est quoi? Il faut qu'on laisse tout un chacun pouvoir présenter sa candidature. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de pouvoir manifester ses ambitions. Caméré pourra être candidat, Sami Badibanga, même si on a 1000 candidats, mais qu'on finisse, que le président des deux chambres puisse convoquer éventuellement cette plénière de l'Assemblée des opposants pour qu'on organise cette élection-là et que celui qui aura séduit, celui qui aura en tout cas un grand nombre de votes, puisse l'emporter. Parce que s'ils veulent chercher le consensus, je donne en tout cas ma main à couper. Cette opposition-là fera comme entre 2006 et 2011, donc passera 5 ans sans qu'on ait désigné ses porte-paroles parce qu'ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord.
Est-ce que c'est urgent d'avoir un porte-parole maintenant? Parce que certains députés de l'opposition estiment que rien n'urge, donc on peut prendre le temps que ça peut prendre le temps que ça peut.
Comment ça, on doit prendre le temps qu'on doit prendre? La loi dit que 30 jours après l'investiture du gouvernement, il faut qu'on désigne un porte-parole. Moi, je n'arrive pas à comprendre, nous, Congolais, surtout au niveau de la classe politique. On ne respecte jamais les échéances. On donne, par exemple, aux Congolais qui étaient à Sand City, autant de temps pour finir, toujours des prolongations. Moi, je pense qu'on aurait dû respecter ce timing-là officiel. Ça urge parce que le gouvernement, maintenant, n'a pas quelqu'un en face pour pouvoir quand même contrôler, pouvoir quand même critiquer officiellement. Donc ça urge, mais malheureusement, ils ne sont pas mis d'accord. Moi, je pense qu'au cours de la plénière, disons, de la session ordinaire de septembre, ils pourront quand même se mettre d'accord. Et comme je l'ai dit, que chacun exprime ses ambitions et que ceux qui vont voter, votent pour, on a mes consciences. Parce que même au sein de IDPC FAC, il y a des gens qui soutiennent Vital Caméré. Sami Badibanga ne fait pas aussi l'unanimité dans son propre groupe parlementaire. Et par rapport à l'UDPS officiel se considère comme étant la majorité au pouvoir. et qu'elle n'a rien à voir avec l'opposition. Et c'est pour ça des porte-parole.
Jean, merci, Guillermo Kolo, Jean Ndombassi. Comment vous analysez cette situation au sein de l'opposition politique congolaise qui n'arrive pas toujours à se choisir un porte-parole?
Oui, dans l'opposition, rien n'a changé. C'est toujours le statu quo. Ils ont fait passer 5 ans avec la première législative. Et puis aujourd'hui, c'est une nouvelle législature qui débute. Ils n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord autour d'un porte-parole de l'opposition. Mais dans tout ça, moi, je ne voudrais pas qu'on puisse pointer du doigt le pouvoir en place, parce que le pouvoir en place s'est battu pour réorganiser. Et aujourd'hui, les règles du jeu sont connues du côté de la mouvance présidentielle. Du côté de l'opposition, vous allez voir, vous qui êtes à Kinshasa, comme ils ont des biceps faciles, ils vont encore se changer de coup devant la population, et ça sera une honte. Donc, le mal dans notre opposition, c'est ils ne sont pas organisés, et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord dans plusieurs discussions, dans plusieurs cas, tout ça. Donc, la désignation de ces porte-paroles va constituer un contrepoids dans la gestion de la chose publique, parce que il faut qu'il y ait en face du gouvernement Matata quelqu'un qui doit dire que non, vous n'êtes pas seul dans le bateau. Attention, si vous continuez à prendre cette direction, et quelque part, vous serez buté à une difficulté. Donc, rapidement, moi je pense qu'au mois de septembre, qu'on puisse passer ce dossier au vote. Et qui de Sami Badibanga, qui de Vital Kamerhe, nous voulons que les urnes puissent quand même parler à ce sujet. Mais moi, je pense que Sami Badibanga n'a pas de poids pour occuper cette fonction. Il peut laisser ça entre les mains de Vital Kamerhe. Parce que nous connaissons le charisme de ce monsieur et il est capable de contredire le gouvernement en face dans plusieurs dossiers, quoi, et trouver un compromis. Donc voilà un peu tout ce que nous pouvons dire à ce sujet.
Merci Jean Ndombassi. Harold Bellarmé, il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Brève réaction et puis vous allez conclure.
Non, je suis ahuri quand même nous parlons en termes de profil, comme si Kamerhe a le profil unique. Avant de voir les à côté, il y a des principes. Nous sommes un pays de principes. Le principe, c'est que pour voir les à côté de ces préalables, il y a un critère principal. Dans tous les pays que j'ai cités, la Mauritanie et consorts, on doit être issu d'une formation politique première dans l'opposition. C'est le préalable. Et après seulement, on peut voir ailleurs. La question est posée, est-ce que l'UNC, c'est le premier parti politique de l'opposition? Non. Alors, quand on parle du profil, maintenant, on oublie que Sami Badibanga était le conseil principal de Tshisekedi. Tshisekedi qui fait l'unanimité, le leader incontournable. Lorsqu'il arrive à opter pour un monsieur comme Sami Badibanga, on pense qu'il a pris un farfelu. Non, il n'est pas un parvenu dans la scène politique congolaise. Et puis, tout le monde sait, en ce que moi je sais, c'est un opérateur économique sur le plan international. Il est capable, avec la stature du porte-parole de l'opposition, de fédérer beaucoup de partenaires au niveau de la RDC. On peut maintenant...
La conclusion,
c'est que ce pays nous appartient tous. Nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ce sont avec la robotisation de la scène politique congolaise. Par rapport au choix du porte-parole de l'opposition, on doit tenir compte des principes démocratiques et le porte-parole doit venir de l'UDPS et donc c'est Sami Badibanga. Par rapport à l'est de la RDC, qu'on cesse avec la distraction, nos mères, nos sœurs, nos frères ont été pillés, violés. Nous avons besoin qu'ils retrouvent la paix.
Guillermo Kolo, conclusion.
Sur la question de porte-parole, j'ai dit, nous sommes ici à trois en train de débattre. Je me rends compte que notre confrère de Mwanda est du même avis que moi et que Harold est vraiment en minorité. Il doit s'incliner.
On sait bien que ce n'est pas la campagne qu'on fait ici, voilà, soit pour Sami Badibanga ou Kamerhe.
Ok, j'ai dit, bon, pour l'Est, je souhaite vraiment de vive voix que cette force-là internationale puisse véritablement être mise en place et qu'on puisse juger ces forces-là au résultat, comme juste par exemple un maçon au pied du mur.
Merci, chers confrères, d'avoir accepté de participer une fois de plus à cette tribune de la presse. Samuel Kachak était à la réalisation. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon week-end à tous et bonne pluie de programme sur la fréquence de la paix.